La marche du monde.
Les cadences infernales à la boîte.
La boîte galopine. Le mouvement ouvrier de chez Citroën, c'est une permanence depuis le début, depuis 1912 jusqu'à aujourd'hui. On a toujours eu cette permanence sur la présence du mouvement ouvrier chez Citroën, et y compris dans les grands événements qui ont marqué notre histoire, la guerre de 14-18, 1936, la guerre d'Espagne, 39-45, la guerre d'Algérie, pour ne citer que ces événements-là.
La production, la production.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Citroën, une histoire de lutte sociale depuis sa création, nous dit Roger Gauvry. Il est l'un des anciens salariés de l'entreprise et co-auteur avec ses camarades Alain Malherbe et Jean-Yves Masson de Citroën, Par ce qu'ils l'ont fait, un ouvrage et un blog coordonné par l'historien Alexandre Corban, notre invité dans La marche du monde. Et c'est bien une histoire de lutte que vous nous racontez, Alexandre Corban, et je dirais même plus, une histoire de la lutte d'une organisation syndicale, la CGT, au sein de Citroën. À quelle source avez-vous eu accès ?
On a principalement travaillé à partir des témoignages des anciens de Citroën, et pour les périodes les plus anciennes, on a pu avoir accès aux archives syndicales, que ce soit les archives de la Fédération de CGT de travailleurs de la métallurgie, mais aussi les archives de certains syndicats, comme par exemple ceux de Rennes ou ceux de Saint-Ouen. On a également travaillé sur les archives de la surveillance policière, entre autres celles de la préfecture de police de Paris. On s'est également appuyé sur la presse de l'époque, qui pour nous est une source importante. Des titres comme L'Humanité ou La Vie ouvrière qui rendent compte de ces luttes davantage qu'un journal comme Le Temps pour la période avant 1939. Et on a également compulsé, dans la mesure du possible, toutes les sources imprimées patronales, entre autres le bulletin Citroën, qui nous a permis, sur certaines périodes, de compléter les éléments que nous avions sur certains acteurs de cette histoire. Je pense notamment aux deux frères Éclair, qui ont été assassinés à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
L'entreprise Citroën vous a ouvert ses archives sans problème ?
On a envoyé une demande pour pouvoir compulser les archives de l'entreprise Citroën. On a été reçu une première fois, on a précisé notre demande et on a surtout précisé le fait que ce collectif, c'est un collectif qui émanait de l'Institut d'Histoire Sociale CGT de la Métallurgie. Et à ma connaissance, la réponse n'est pas arrivée à ce jour.
Alors c'est également la volonté des anciens salariés, hein, vous l'avez dit, ce sont eux qui sont venus vous chercher, des anciens militants de la CGT, de conserver cette mémoire. Et ils ont voulu aussi enregistrer ces témoignages d'anciens, des anciens comme Roger Gauvry, qui mettent en lumière l'action résistante chez Citroën pendant la Seconde Guerre mondiale.
En fouillant dans les archives de la préfecture de police, du musée de la Résistance nationale, des archives de la métallurgie, on a révélé évidemment des traces de résistants de plusieurs types. La diffusion d'un tract, la prise de parole, le sabotage, ou des choses peut-être un peu moins connues, mais y compris parmi les ingénieurs. J'en ai notamment un qui s'appelle Paul Magès, qui était le père de l'hydropneumatique. Lui, durant toute la période d'occupation, où toutes les entreprises d'automobiles n'avaient absolument pas le droit de travailler, d'entreprendre de la recherche. Et ben, ce Paul Magès, durant toute cette période, il fait sa résistance, en quelque sorte, à sa manière, en continuant de concevoir ce qu'il pouvait faire après la guerre pour développer toute sa technologie dont il était un petit peu le propriétaire.
Donc Pagès, résistant, c'est une info, et également inventeur de l'hydropneumatique. Une petite précision pour nos auditeurs qui n'ont jamais conduit de Citroën.
C'est le système de suspension qui sera développé et généralisé sur la DS.
L'élasticité de l'air et la flexibilité de l'eau se conjuguent dans la suspension hydropneumatique pour obtenir à la fois confort et tenue de route.
Voilà, il y a un petit temps de gonflage en quelque sorte avant de démarrer.
On voit que vous avez conduit ce genre de véhicule.
Confort et sécurité.
Donc des militants résistants, mais aussi des militants impliqués pour l'application des droits des salariés. Alors c'est notamment la révolution culturelle représentée par les comités d'entreprise, puisque pour la première fois, les salariés peuvent gérer eux-mêmes leurs œuvres sociales.
La décision que le syndicat CGT, qui était majoritaire depuis fort longtemps dans les usines, s'engage à la gestion des œuvres sociales, a été prise en 1964. Et il faut bien se rendre compte que c'est quand même 18 ans après la création des comités d'entreprise. La direction Citroën voulait continuer à gérer à travers son service social les œuvres sociales qu'elle avait décidées, qui n'étaient pas d'une très grande importance, mais qui, dans son cadre d'une politique très paternaliste, permettaient de tenir d'une certaine façon les ouvriers sur des bases plutôt de bienfaiteurs, qui n'avaient aucun contenu, comme nous avons pu vouloir qu'il soit, c'est-à-dire, si on peut s'exprimer ainsi, un contenu de classe. C'est-à-dire que ce soit les travailleurs qui prennent en main cette gestion pour les travailleurs en essayant de faire diminuer le paternalisme ambiant et leur montrer qu'ils étaient capables de faire des grandes choses et de les faire surtout participer.
Claire Mouzas, la protectrice des métallos, elle a travaillé pour les œuvres sociales du comité d'entreprise de Citroën de 1966 à 1970. Alexandre Courban, c'est une dimension très intéressante, ce passage de l'entreprise paternaliste à l'ancienne, à l'entreprise moderne, où les salariés sont représentés, ils sont partie prenante à la gestion des œuvres sociales. C'est un concept hérité du CNR, le Conseil National de la Résistance. On a l'impression que c'était très compliqué et très difficile à mettre en place chez Citroën.
À la fois compliqué et difficile à en mettre en place, et en même temps une aventure extraordinaire, dans la mesure où les comités d'entreprise sont à la fois une école de responsabilité et une école de création, qui va permettre aux militants de la CGT de Citroën, et plus globalement aux ouvriers, de mesurer à quel point la gestion de leurs activités sociales, par eux-mêmes, peut transformer la réalité. Un premier exemple, Noël 1964, tous les enfants des salariés de chez Citroën vont avoir un cadeau et pas uniquement les enfants dont les parents ont la nationalité française. Ça, c'est une rupture forte avec ce qui préexistait chez Citroën jusqu'alors.
Ça veut dire que précédemment, les enfants des immigrés, par exemple, qui travaillent chez Citroën, n'avaient pas droit au cadeau de Noël ?
Exactement. Ça veut dire que avant la gestion des œuvres sociales par les syndicalistes, par la CGT, les enfants d'immigrés n'avaient pas droit à ce cadeau de Noël. Le deuxième exemple, c'est que le restaurant d'entreprise va devenir un lieu réservé aux travailleurs et un lieu qui va être investi par les syndicats pour pouvoir prendre la parole devant les salariés de l'entreprise sans avoir l'agent de secteur sur le dos comme ça pouvait être le cas à l'atelier. Et ces restaurants, c'est le troisième exemple, vont jouer un rôle très important dans les grandes grèves de mai-juin 68, puisqu'ils vont permettre de maintenir une certaine activité à l'entreprise et en même temps de nourrir tout simplement celles et ceux qui sont en lutte depuis plusieurs jours.
Mai 68, pour moi, ça a été un événement. À l'époque, on dormait dans l'usine. On avait installé des lits de fortune à l'infirmerie. J'étais plus de 15 jours dans l'usine. On pouvait se laver quand même, enfin.
Qu'est-ce que vous demandiez en 68 ?
L'augmentation des salaires. On a eu des augmentations, mais pas suffisamment, à mon avis. Parce que ce qu'ils ont essayé de donner d'une main, ils l'ont pris de l'autre, en augmentant les cadences, par exemple.
Claude Rousseau, l'Insoumis, évoque le prix à payer pour les augmentations de salaire obtenues après les grandes grèves de 68, tandis que Gérard Lebatteux, lui, se souvient de ces années 60 et 70, synonyme pour lui d'éducation politique et syndicale.
C'est la lutte des travailleurs de Citroën contre leur patron, celui qui est Zelpoit, y compris la CSL qui est un syndicat bidon.
Je viens de la province, d'un petit village de Touraine, Et donc j'arrive sur Paris en 1968, donc juste après les événements de mai-juin 68, dans l'usine de Nanterre qui plus est, avec tout le symbole de la faculté de Nanterre qui était toute proche. J'ai la chance à cette époque-là d'être dans un foyer de jeunes travailleurs. Donc c'était à la périphérie de Paris, c'était à Chaville, dans un foyer de jeunes travailleurs où on était environ 200 salariés, où il y avait un brassage très important. Il y avait les gars de chez Renault, il y avait les gars de La Poste, il y avait les gars de chez Dassault, tout un tas d'entreprises qui étaient là. Et là il y avait une effervescence alors politique, syndicale et culturelle. Il y avait des expositions qui étaient faites dedans. C'était extraordinaire ce qu'on vivait là-dedans. Et donc forcément des débats énormes au moment des repas qui étaient pris en commun le soir ou le midi, entre les Renault qui critiquaient les Citroën et Citroën qui critiquaient un tel et un tel. Mais on abordait tous les thèmes de la politique. Donc ce qui se passait en France évidemment, mais aussi à l'étranger. Moi, mes premières manifestations, ça a été par rapport aux manifestations contre la guerre au Vietnam. La guerre au Vietnam, contre la répression franquiste en Espagne, avec le garrotage d'un certain nombre de militants qui étaient emprisonnés. Donc c'était mes premières manifestations, en plus de celles qui se battaient aussi pour la retraite à 60 ans, les 40 heures. Donc tout ça, c'était un mélange important. Et en plus, localement, j'avais des liens avec les membres du Parti communiste, et c'était des débats incessants, importants, en permanence. Donc c'était vraiment d'une richesse et d'un éclectisme formidable.
Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chefaillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les, nos voix, elles annoncent la guerre.
Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans.
Baladez-vous un peu dans les foyers putrides où on dort par roulement. Quand on fait les 3-8.
Alexandre Courban, qu'est-ce que la révolution de mai 68, initiée par les étudiants et rejointe par les ouvriers, change finalement dans cette pratique ouvrière, politique, syndicale, je dirais, chez les militants de chez Citroën, mais chez les militants de l'industrie automobile plus largement?
Elle va permettre, par exemple, la diffusion de la presse syndicale à l'intérieur de l'usine et non plus uniquement à l'extérieur, même si chez Citroën, contrairement aux autres entreprises de la métallurgie qui ont accepté cela dès fin juin, début juillet, même si chez Citroën, il va falloir pour ces militants-là continuer de se battre pour obtenir que le droit, tout simplement le droit, soit appliqué dans l'entreprise.
Effectivement, nous retrouvons Gérard Le Batteux, héritier de mai 68, lui aussi, l'ouvrier électromécanicien, a le sentiment de payer après 68.
Un jour, un ou deux ans après mon embauche, mon contremaître m'appelle en disant « Monsieur Le Batteux, on est content de vous, de votre travail, on va vous muter dans le 15e, patati patala, vous allez avoir un autre travail très intéressant, donc tout va aller bien. » Et moi, très fier, je dis « Bon, je suis muté. » Le 15e, c'était quand même, pas le fleuron, mais c'était un peu le centre de Citroën. Et donc, je suis muté à l'usine Citroën du 15e.
De Javel.
De Javel, tout à fait. Et j'arrive et je m'aperçois, alors très rapidement, que c'est le ghetto, en fin de compte. Parce que il y a énormément de militants CGT, donc c'est un peu, on cloisonne les militants de la CGT, on les met là, et y compris de la CFDT, qui sont là. Et puis, moi, je suis affecté à un travail qui n'a rien à voir avec mes ambitions professionnelles, un travail certes utile, mais qu'on peut donner à des gens un peu âgés, qui sont un peu fatigués, donc ça c'est très bien, mais un jeune de 20 à 21 ans, qui a des ambitions professionnelles, c'est le casser complètement pour son avenir professionnel.
Vous écoutez RFI, la marche du monde, Valérie Niveau.
Et dans la marche du monde, les anciens de Citroën parlent et se racontent dans un livre et sur un blog intitulé Citroën par ceux qui l'ont fait. Une histoire de lutte syndicale, une histoire de la CGT au sein de l'entreprise Citroën, empreinte de passion ouvrière pour son métier, de solidarité entre travailleurs, mais aussi de conflits récurrents avec la direction, des grèves, des discriminations, voire des violences. C'est une dimension très frappante, je trouve, de votre récit, Alexandre Courban.
On s'aperçoit au fur et à mesure de cette histoire que progressivement l'affrontement grandit, mais grandit également dans les formes. C'est-à-dire que de la parole on en vient au geste et de certains gestes on en vient à l'assassinat.
Alors page 138 de votre Citroën par ceux qui l'ont fait, une photo d'obsèques que je vous laisse commenter. Au centre de la photo un portrait, c'est celui de Pierre Maître. Qui est-ce ?
Pierre Maître était un ouvrier qui travaillait dans les verreries mécaniques de Champagne. C'est pas un ouvrier de Citroën. Son usine est en grève. Il y a un piquet de grève et les nervis de chez Citroën vont prêter un coup de main au patron local pour justement faire cesser cette grève. Il se trouve que le principal dirigeant de cette entreprise de verreries mécaniques est quelqu'un connu par ailleurs pour ses engagements et son franc-parler à l'égard des ouvriers, puisqu'il s'agit de Maurice Papon, qui a été préfet de police à Bordeaux et qui a contribué à la déportation de centaines de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui a été également préfet de police à Paris au moment de la guerre d'Algérie, et qui a couvert les policiers qui ont jeté par-dessus les ponts les Algériens qui militaient pour l'indépendance.
Donc ces obsèques de Pierre Maître, c'était le 10 juin 1977. Une autre photo a retenu mon attention, il s'agit de deux panneaux. L'un est écrit en français, on peut lire « Citroën doit payer », l'autre est écrit en arabe. Alors on pourrait croire que ça veut dire la même chose, et bien si on vous lit bien, ça ne veut pas dire la même chose. Alors quelle est l'autre légende finalement de ce panneau en arabe ?
On a demandé à un ancien de Citroën de Saint-Ouen qui parle arabe et qui pouvait du coup nous aider à comprendre. C'est tout simplement liberté par le syndicat.
Ce n'est pas la même chose que Citroën doit payer.
Tout à fait.
Alors comment vous l'interprétez, ce message écrit en arabe, ce message des immigrés ?
La CGT, qui est le principal syndicat présent chez Citroën depuis le début, pour des raisons historiques, a toujours tenter d'intégrer les travailleurs immigrés à la vie de l'entreprise, par exemple en désignant un certain nombre de travailleurs originaires du Maghreb comme délégués du personnel au moment de la guerre d'Algérie, ce qui était un acte politique fort de demander à l'ensemble des salariés de l'usine français et étranger de voter pour un Algérien au moment où il y a cette guerre qui ne dit pas son nom qui se déroule.
Alors en même temps, les immigrés, je trouve, sont un peu les grands oubliés dans votre travail de mémoire effectué avec la CGT.
On peut penser qu'on aurait pu mieux faire, ou en tous les cas, on aurait dû certainement s'y prendre autrement pour pouvoir intégrer davantage ces paroles-là qui nous manquent. Et en même temps, en relisant le livre, je me suis rendu compte que très régulièrement, on rend compte de l'existence, d'abord, de ces engagements-là de travailleurs
immigrés. Oui, vous dites qu'ils étaient là, vous venez de le dire, il y a des moments où ils sont eux-mêmes, évidemment, présentés comme pour être délégués,
par exemple. Non, on parle également d'eux. Hein.
Leur mémoire, c'est-à-dire que, par exemple, sur le blog, on n'entend pas leur voix.
Tout à fait. Le regret qu'on peut avoir, c'est que de la plupart des travailleurs immigrés dont on en parle presque au passé, dans des biographies, je pense à ce militant espagnol de Saint-Ouen, Julio Benavides. Avant, je pense à Cagazzi, je pense également à Alfonso Composeo, un Italien, à Mohamed Messaoudi. Effectivement, on a manqué certainement de savoir-faire pour capter cette parole-là. On peut imaginer que par la suite, on met à profit tout le travail qu'on investit pour déjà capter les paroles ouvrières qui étaient difficiles à capter pour lancer un appel à ce que celles et ceux qui se reconnaissent dans cette histoire et qui accepteraient de témoigner et de nous raconter leur vie à eux chez Citroën nous rejoignent d'une certaine façon sur le blog pour qui sait une seconde édition de l'ouvrage refondu.
Mais ils peuvent également écrire à marche.monde@rfi.fr.
Social et France, le conflit de Renault-Flin se poursuit. Les OS grévistes ont refusé les propositions de la direction, mais les négociations restent ouvertes. Cependant, la CGT, la CFDT et FO appellent à des débrayages et à des meetings demain mardi. Conflit du même ordre qui commence chez Citroën à l'usine d'Aulnay-sous-Bois. C'est la première grève depuis l'ouverture de l'usine en 1974. Là aussi, il s'agit d'OS, presque tous des immigrés, et les revendications sont les mêmes, avec tout de même une petite différence que nous explique François Salvin.
Voilà 3 jours que ces cheminées ne fument plus. 3 jours que ces chaînes sont arrêtées. Pour la première fois depuis 8 ans. Un événement donc, ce parking du personnel vide et ses grévistes, les premiers depuis que l'usine Citroën Donnay-sous-Bois a été ouverte. Une grève minoritaire, affirme la direction. La CGT, le Parti communiste et la CFDT sabotent l'industrie automobile, affirme la CSL, syndicat qui est l'interlocuteur privilégié de la direction. Toujours est-il une grève qui, avec celle de Flins, met en évidence les problèmes des OS. Avec ici une revendication supplémentaire, celle des libertés pour les syndicats, pour les salariés.
Que si on travaille là-dedans, on est suivi partout. Et si on est adhéré à la CGT ou la CFDT, ils nous donnent des sanctionnements de tout, tout, tout. Si on est adhéré à une syndicat, on n'est pas libre.
Cet ouvrier nous montre la notification d'une mise à pied de 5 jours qu'il aurait reçue pour ne pas avoir repris sa carte de la CSL.
Vous, c'est parce que vous n'aviez pas pris la carte de
voilà,
la CSL.
Voilà, c'est pour ça que j'ai eu 5 jours mise à pied. Voilà.
Syndicat,
voilà. Voilà.
5 jours.
Voilà.
Il y a une discrimination qui est faite à tous les travailleurs qui refusent la carte de la CSL. Voilà. Mais c'est pas seulement être syndiqué à la CGT, mais c'est dès qu'on refuse.
L'interruption est due à un motard qui voulait franchir en force le piquet de grève et qui dut repartir. Sans heurts, mais non sans bousculade. L'incident s'est déroulé très vite et on ne nous a pas spécialement aidés à le filmer. Incident révélateur d'un climat assez tendu, comme ce grillage et cette porte improvisée derrière laquelle des contremaîtres, disons musclés, et des camionnettes attendent les non-grévistes qui pourraient éventuellement se présenter. Un climat reflétant, selon les grévistes, la vie quotidienne de l'usine et dont ils espèrent bien, un an après le dîner, qu'il va enfin commencer à changer.
Alors, est-ce que ce climat reflète le quotidien de l'usine selon l'historien Alexandre Courban ?
Ce qui est certain, c'est que Ney a été créé pour pouvoir implanter une usine et de choisir les salariés qui allaient y travailler et donc se débarrasser des militants. Et ça, c'est une pratique très régulière chez Citroën depuis André Citroën et qui court très largement tout au long de l'histoire de l'entreprise.
J'ai participé aux grèves de 1982. Donc ce mouvement est parti des OS, dont des ouvriers spécialisés. Donc augmentation de salaire et surtout pour leur dignité, c'est-à-dire liberté de vote, être considérés comme des êtres humains, surtout, hein, parce que le travail à la chaîne à Aulnay, c'était pas marrant. Le mouvement a commencé à l'usine des Épinettes, tous les OS dehors, tout. Et la direction avait pris les devants, mais elle était restée à l'intérieur de l'usine avec les militants de son syndicat CFT à l'époque, ou CSL, enfin, parce qu'ils changent sans cesse de nom. Donc la direction était à l'intérieur de l'usine et nous, dehors. Ce mouvement a duré 3 bonnes semaines. C'était très compliqué. C'était compliqué parce que la direction a employé divers moyens pour nous traiter de voyous, enfin de tous les mots les plus inimaginables. Ils ont même fait une manif contre nous, quoi. C'était 15 à 20 000. Le PDG à l'époque a même dit qu'il était en guerre contre la CGT. Donc nous, on avait répondu le lendemain, on s'est retrouvé à 80 000 manifestants. L'ensemble des usines, après, hein, Aulnay, Saint-Ouen, Asnières et Levallois. Juste après le gros mouvement qu'on a fait, les 80 000 personnes, la direction a cédé, elle a finalement accepté toutes nos revendications. On a repris le travail, je m'en souviens, les OS, ils chantaient « Aïa, aïa, vive la CGT ». On est rentré dans l'usine comme ça et le travail a repris normalement.
Gérard Levasseur, surnommé l'homme-outil des épinettes, un CAP d'ajusteur en poche. Printemps 82, c'était donc le printemps de la dignité. C'est sous ce nom que ces grèves sont restées dans la mémoire des Citroën. Alexandre Courban, cela fait déjà 30 ans, ce printemps 82. Aujourd'hui, on a le sentiment que ce n'est même plus pour le droit syndical qu'on se bat, mais c'est pour le droit au travail, pour le droit de travailler. Est-ce que... Au regard de l'histoire, on est dans une période aujourd'hui, ces années 2000, ce 21e siècle, où au fond, les avancées sociales gagnées avec à l'époque un parti communiste très fort, une CGT très forte, je pense, à l'après-guerre, à ce moment où le Conseil national de la résistance donc crée la sécurité sociale, crée la liberté de la presse, crée le droit syndical. Est-ce qu'aux yeux de l'histoire, on est en train de perdre ses acquis? Est-ce qu'on est en train de régresser?
Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a que des conquêtes sociales tout au long du XXe siècle. Il n'y a pas d'acquis à proprement parler. Il n'y a rien qui a été donné comme ça un beau matin par générosité, gentillesse ou pour des raisons idéologiques. Et ce qui est sûr, c'est que toutes ces conquêtes sociales qui dépendent d'un rapport de force qui a été construit, historiquement construit, aujourd'hui, effectivement, on peut considérer qu'il est vacillant. Et quand on voit l'ensemble des remises en cause d'un certain nombre de droits qui pouvaient exister, droit à la retraite à 60 ans, droit du travail pour tous, etc., on peut effectivement imaginer qu'on est dans une phase plus descendante, mais ce qui ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'autres mouvements et conquêtes plus ambitieuses.
Et c'est l'historien qui parle. Merci Alexandre Courban. Le livre Citroën par ceux qui l'ont fait, aux éditions de l'Atelier. Les témoignages des anciens, Roger, Claude, Claire et Gérard ont été recueillis par Sophie Babaz et sont à retrouver sur le blog, toujours intitulé Citroën par ceux qui l'ont fait.
Citroën, c'est le nom d'un petit homme. Un petit homme avec des chiffres dans la tête.
Citroën, c'est une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompeani avec la complicité de notre stagiaire, Philippine Veil. N'oubliez pas de vous exprimer sur marche.monde@rfi.fr et sur Facebook si vous le souhaitez. Podcaster cette émission, c'est la vôtre.